Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, vous écoutez bien Puissance maximale, votre magazine ludique hebdomadaire avec François Gécouillard et Christian Lacroix. Salut Christian.
Salut François, ça va bien?
On s'entend mieux que tantôt, on avait un petit problème technique, on s'excuse aux auditeurs. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de bonnes choses à vous faire entendre dans l'univers féerique de Cthulhu.
Ludique, ouais.
N'est-ce pas, avant que la folie ne nous prenne le cerveau. Tout d'abord, on a une entrevue avec Pascal Babin qu'on va appeler à l'instant. Alors, pour l'instant, pour vous faire patienter, on va vous faire jouer une petite chanson. Est-ce que tu as un message de paix pour les jeunes gens, Christian?
Ah oui?
Je sais pas, c'est improvise un message de paix pendant que je prépare la toune.
OK, oui, ben c'est important de devenir membre de CKIA FM, entre autres, hein, on le rappelle, là, c'est une radio communautaire, donc on compte sur votre support.
Exactement! Sinon, on s'en va écouter Gutter Demon avec Pauvre Martin, une reprise de Brassens en psychobilly!
Ah, ça
c'était Gutter Demons, une musique qui rentre dans le dash. Sinon, nous avons en ligne avec nous Pascal Babin. Bonjour Pascal. Est-ce qu'il m'entend? Pascal, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu mettras ton capot et tu iras.
Oui, bonjour, Monsieur Babin. Bon, on a un petit problème technique, comme d'habitude, avec le téléphone. Donc, on va revenir après cette petite pièce musicale. Qu'est-ce que tu as déjà un autre message d'avenir pour les jeunes gens, Christian?
Oui, n'allez pas dans le Nord pour explorer sans défense, parce que vraiment, là, attendez que le gouvernement soit là avec vous, parce qu'il y a des choses que vous voulez pas voir dans le Nord.
Sinon, on pitonne avec les pitons et on revient tout de suite quand on a Pascal Bobin.
Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
Alors, Monsieur Babin, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, bonjour. Alors, tu m'as demandé de te tutoyer. Alors, bonjour, Monsieur Tutoie Babin. Donc, on rappelle que Pascal Babin est humoriste. C'est un diplômé de l'École nationale de l'humour en 97. Il a gagné plusieurs prix dans divers festivals d'humour, dont une nomination à la Disque en 2004. Mais évidemment, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le côté ludique de la chose. Donc, récemment, tu as fait des capsules vidéo pour la promotion des jeux Time's Up et les colons de Catan.
Oui.
Donc, c'est quoi Time's Up exactement?
Time's Up, c'est un jeu qu'il faut que tu essaies de faire décrire des personnages qui sont soit réels ou fictifs à des partenaires. Ok, mettons que t'es des trois équipes de deux sur 400 cartes de noms québécois ou des personnalités connues mondialement. T'en piges 40 là-dessus. Mais sur 40, tu fais trois manches avec ça. La première manche, tu as le droit de parler. Exemple qu'on parle de Mike Ward. OK? On met sur Mike Ward, la première ronde, tu as le droit de parler. Tu as le droit de dire Paudy Chabot, il travaillait à Musique Plus, il y a un nom anglophone. Puis là, tes partenaires doivent trouver que c'est Mike Ward. La deuxième ronde, après avoir fait tous les 40 noms du premier, la deuxième ronde, là, tu as juste le droit de dire un mot. Fait que juste seulement un mot, fait que là, mettons, tu irais avec Chabot.
C'est ça, puis le reste, tu le mimes, en fait.
Et le troisième, tu le mimes. Okay. C'est bien intéressant, bien trippant. Il y a des callbacks qui reviennent dans la soirée, puis tu passes une agréable soirée. Faut être quatre ou plus pour jouer à ça, c'est bien intéressant. Essayez ça avant Noël, c'est une belle suggestion cadeau.
C'est ça, faut dire, c'est un jeu de party. C'est un jeu qui joue à quatre, en équipe, ça peut jouer à six, à huit. C'est un gros jeu de party de famille, dans le fond.
Oui, exactement. Pour Noël, là, c'est souvent on cherche quoi faire. Puis souvent on revient toujours avec les mêmes jeux. Hein, là, on a fait Tabou. Là, moi, j'ai comme donné dans Tabou. Là, fait que Time's Up, c'est un nouveau jeu qui est pas mal dans ce style-là, puis qui arrive avec plein de fou rire dans la soirée, c'est garanti.
Ouais, Tabou, c'est quoi ça déjà? Ça me sonne une cloche, mais je me souviens pas exactement.
T'sais, Tabou, t'avais faut que tu fasses dire un nom à quelqu'un, mais t'as une liste de 4 ou 5 noms en dessous que t'as pas le droit de mentionner.
OK. Donc, Time's Up, un jeu de mime. Tu parles justement que c'est un bon jeu pour le temps des fêtes, là, mais est-ce que ma tante Germaine va pouvoir jouer à ça ou mon oncle Léon?
Oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a des noms. Tu sais, on retrouve des noms comme Mario Pelcha en passant par Jacques Neuve. Tu sais, fait qu'il y a plein de noms québécois qui sont dedans, que tout le monde connaît, fait que c'est vraiment facile et accessible à tous.
Et ça fait faire des folies à tout le monde. Et que tu sois à jeun ou sous, c'est le même comportement que sous, ça va être encore plus drôle.
Ouais, ouais.
Le mime, ça se fait très bien à jeun. Sinon, c'est ça, est-ce que toi-même, est-ce que tu as des antécédents de mimeur? Parce que là, on voit sur les vidéos qui sont disponibles actuellement sur Internet, là, on va le dire maintenant, mais on va le rappeler tout à l'heure, philosophiagames.com/capsule au pluriel. Donc, on peut voir trois capsules pour l'instant avec Time's Up, là, où est-ce que tu mimes des personnages, tu fais comme si tu jouais. Est-ce que tu as des antécédents de joueurs? De mimeurs, je veux dire.
De joueurs?
De mimeurs, je veux dire. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as déjà... parce que tu es un humoriste, est-ce que toi-même, tu as déjà mimé de façon professionnelle, je sais pas?
Non, j'ai jamais mimé devant un public plus que 6 personnes, non. C'est pas vraiment ma force.
Donc, c'était la première expérience pour toi, dans le fond?
Ouais, c'est ça. Et les colons de Catan, t'as-tu joué? T'as-tu le jeu en ta possession?
Je l'ai pas en ma possession, mais j'ai déjà joué il y a quelques semaines. Pour la première fois, j'ai joué. Qu'est-ce que c'est justement? Peut-être expliquer aux gens, c'est quoi les colons de Catan?
Les colons de Catan, c'est un peu un mélange entre, je sais pas si t'es d'accord avec moi, entre le Monopoly et Risk. Hein, ouais. De se construire des routes pour pouvoir se construire des maisons, puis ensuite des villes. Sur une île, ça se passe sur une île, et ça joue avec des dés, c'est vraiment... Mais t'es-tu d'accord avec moi, c'est un mélange entre les deux?
Je pense que pour la majorité des bonnes mortels, ils vont bien replacer Monopoly et Risk, et je pense que effectivement, c'est un bon... J'ajouterais même qu'il y a une notion stratégique peut-être plus importante encore que ces deux jeux-là.
Oui, parce qu'il faut que tu ramasses des besoins pour pouvoir construire tes routes et tes maisons, puis ensuite tes villes. Et plus que t'es stratégique, plus que tu sais où construire tes villes, où construire tes routes, mais il y a plein d'intéressants, il y a plein de beaux revirements aussi, parce que c'est pas long, c'est un tour de table, puis toute la game peut changer d'un coup, c'est bien intéressant aussi.
C'est ça, si tu penses bien à ton affaire, tu peux bloquer les autres joueurs qui avec tes routes, là, tu peux les empêcher de passer à certains endroits, donc tu peux nuire aux joueurs, il y a une notion de chance, il y a une notion de stratégie, il y a une partie d'échange aussi, on peut échanger des ressources avec les autres joueurs, donc il y a une notion de marchandage qui est intéressante.
Ouais. Les colons de Catane, je dirais que c'est peut-être pas pour mon oncle et ma tante qui commencent à être failing le 24 décembre au soir, mais avec une gang de crinqués, là, ça te tente de jouer avec des amis, c'est sûr, officiel, que tu passes une belle soirée avec ça.
Et toi, est-ce que tu avais déjà joué à ce jeu-là avant d'en parler, avant d'en faire la promotion là, pour la philosophie?
Oui, parce que moi, je suis revenu d'Afghanistan la semaine passée, puis aussitôt que je suis revenu, on m'est arrivé avec les projets, puis on a passé une journée à jouer aux deux jeux, et j'ai vraiment adoré ça. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des gens que je connaissais pas dans l'équipe, tu sais. Fait que tu te dis, oups, là, ça va peut-être être un jeu d'inside que, tu sais, tout le monde, tu sais, c'est pareil pour Time's Up, tu te dis, calé, que ça va être des jeux d'inside, mais finalement, non, parce que les inside créent au moment que la soirée avance.
Mm-hmm.
Fait que c'est bien agréable de jouer à ces deux jeux-là. Fait qu'essayez ça, pour le temps des fêtes. Moi, je dirais que c'est une très belle suggestion cadeau. Puis on parle pas vraiment d'un prix là, exorbitant. Là. C'est quand même bon pour deux jeux qui se disent familiales.
Ouais, Time's Up et Colons de Catan, on rappelle aux gens que ça peut se trouver dans tous les bons magasins.
Oui, puis il faut mentionner aussi que les Colons de Catan, salut Pascal en passant, les Colons de Catan, il y a une myriade d'expansions qui sont disponibles. Donc, si vous aimez ça, vous pouvez jouer à Ad Nauseum avec ça.
Oui, c'est un jeu qui vient de l'Allemagne, puis ça fait depuis 2004, je pense, il gagne plusieurs prix comme étant le meilleur jeu du pays.
Oui, tout à fait, c'est reconnu, c'est un classique, un incontournable.
Écoute, Pascal, tu en as parlé brièvement tout à l'heure, tu reviens d'Afghanistan, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas exactement?
Je suis allé faire des shows pour les soldats, surtout les soldats du 22 à Valcartier. On a fait 7 spectacles, 4 à Kandahar, 2 dans un camp de transition, au camp Mirage, et 1 à Kaboul.
Et si je me trompe pas, tu étais avec une gang de vedettes de Star Academy, puis de je sais pas trop où, là?
Non, pas du tout. Une gang de Québec Sim, une gang du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était là. On était 12 en tout. C'était vraiment trippant. C'est la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie jusqu'à présent.
Et là, la question, c'est, est-ce que les soldats jouent à des jeux de plateau en Afghanistan?
J'ai pas vu de soldats. Ben, écoute, les échecs et les dames sont des jeux de plateau. Donc, je peux dire que oui, c'est pas mal les seuls jeux que j'ai vus, mais il s'agit pas vraiment des jeux... J'ai pas vu personne jouer à Destin.
Quand même, les échecs, c'est des impérissables, hein? C'est des bons jeux.
Et le poker aussi, le poker, j'ai affronté le 7e Allemand, je sais pas si vous êtes des bons joueurs ou des tripeux de poker, mais j'ai affronté le 7e meilleur Allemand, et le gars est classé 7e.
Puis il est dans l'armée canadienne.
Hein?
Le 7e meilleur joueur de cartes au monde, il est dans l'armée canadienne?
Non, pas de cartes au monde, de l'Allemagne.
Ok.
Le 7e meilleur Allemand, il est là,
okay.
L'armée de l'Allemagne.
Okay.
Évidemment, il m'a donné une volée, là, vraiment une belle correction, mais c'était le fun parce qu'il m'a donné plein de trucs, Fait que je pense que mon jeu est un peu mieux depuis que je suis revenu de là.
C'est comme ça qu'on apprend.
En se plantant. Ben écoute, je te remercie Pascal, c'est tout le temps qu'on a. Il y a eu quelques problèmes techniques, donc ça a abrégé l'entrevue. Sinon, on peut aller voir les capsules vidéo, sont très drôles, allez voir ça. philosophiagames.com/capsule avec un S. Je te remercie Pascal.
Merci les boys.
Ciao.
Merci.
Sinon, on va se continuer avec une petite pièce musicale. Cette fois-ci, ça va être les Hellcats Sérénades pour Loup-Garou. Un groupe de Québec. Il faut vous encourager ces jeunes gens-là.
suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Et nous sommes de retour à Puissance Maximale, votre émission magazine ludique hebdomadaire avec François Gécouillard au micro, Christian Lacroix, et maintenant on a un invité qui s'appelle Mathieu Morin, le PDG de l'agence Cyberathlète Top. Salut Mathieu.
Salut.
Alors qu'est-ce que c'est l'agence de Cyberathlète Top exactement?
En fait, mon entreprise, on recrute des cyberathlètes qui veulent faire des compétitions au niveau international. Ma mission, c'est de les aider financièrement à payer les frais de voyage en les sponsorisant.
Et là, c'est vraiment des jeux électroniques, là.
Ah, c'est du sport électronique.
Sport là. Électronique. Du e-sports.
Exactement.
Puis ça, c'est vraiment sérieux, là. C'est-à-dire que les gens, c'est comme un vrai sport. En fond, tu coaches des joueurs comme des joueurs de hockey professionnels ou olympiques.
Ouais, il y a plusieurs personnes qui pensent que le e-sport n'est pas vraiment un sport, mais ça vient vraiment retoucher toutes les caractéristiques d'un sport normal. C'est un... Très souvent en équipe de 5, donc il y a la stratégie, il y a beaucoup de choses qui touchent exactement comme le sport.
Puis je sais que c'était aussi très développé en Asie, ça fait plusieurs années, je pense qu'ils sont en avance là-dessus, mais là, ça s'en vient mondial comme phénomène.
Oui, ouais, c'est très développé en Europe, aux États-Unis, mais les leaders mondiaux, c'est vraiment la Corée. Eux, ils ont des émissions, ils ont 3 postes de télé qui passent que ça.
Ah ouais,
la folie là-bas, c'est vraiment StarCraft. Les joueurs professionnels peuvent gagner jusqu'à 100 000 $ juste pour jouer à un jeu vidéo. Donc, c'est vraiment un métier de cyberathlète professionnel.
Ah, c'est fou, hein?
Ouais, d'ailleurs, on salue Guillaume Patrick de Québec, hein, qui est allé faire carrière là-bas.
Oui, exactement.
Et sinon, c'est vraiment ton métier à temps plein, ça, en tant que PDG de l'agence?
Oui, mon entreprise, je l'ai fondée cet été à Québec. Je suis venu ici, j'ai une entente avec Dream City, qui est mon partenaire. Puis je suis venu à l'émission Puissance Maximale justement pour plugger. On lance une ligue de Dota dans le mois de janvier. Donc s'il y aurait des joueurs qui pensent pouvoir faire une carrière professionnelle en Dota, La formule, ça va être des équipes de 5 contre 5.
Je t'arrête. Peut-être expliquer, c'est quoi exactement, madame, monsieur, madame, tout le monde qui écoute, c'est quoi Dota?
C'est quoi un Dota? Ben, c'est une mode de Warcraft 3, qui est en fait très populaire à Québec et un peu partout dans le monde aussi. Mais c'est les compétitions à l'international, d'habitude, c'est un autre mode, mais Dota est très populaire ces temps-ci à Québec, donc c'est pour ça qu'on a pensé lancer une ligue de Dota. Donc, dans le fond, c'est le jeu Warcraft 3 avec un mode spécifique.
OK. Puis, est-ce qu'il y a des agences comme ça, par exemple, qui sont basées à Montréal ou c'est unique au Québec, votre
compte? À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'agence. Dans le e-sport, normalement, de la façon que ça fonctionne, c'est les teams se font sponsoriser par eux-mêmes. Au Québec, on a quelques teams qui essayent de percer. Je pense notamment à No Pression, qui ont un team de CS quand même assez fort. Mais à ma connaissance, une agence pour représenter les joueurs, essayer de leur faire signer un contrat avec des équipes professionnelles, à ma connaissance, c'est
une première. Ouais. OK. Puis est-ce que donc vous recrutez partout au Québec ou dans la région de Québec?
Non, c'est partout au Québec, même au Canada, j'ai pas de problème avec ça.
Est-ce que tu as des yeux justement sur des talents? Peut-être For Glory qu'on a eu
exactement.
La semaine
passée. Ouais. Je suis en contact avec For Glory. On essaie de trouver des sponsors pour lui pour un événement qui va avoir lieu à Londres le 30 janvier. Donc, je suis en contact avec Marc-André For Glory, qui est le cyber champion de la Coupe Canada 2007. Donc, c'est exactement le type de cyberathlète que je veux représenter.
OK, le top, là.
Puis, est-ce que c'est difficile de persuader les entreprises, les hommes d'affaires de sponsoriser ces athlètes-là?
Oui, j'avouerais que c'est très, très difficile de convaincre que c'est un sport. C'est vraiment très nouveau. Ça fait à peu près 5 ans que ça existe, donc c'est très difficile de trouver des sponsors pour ce domaine-là. Plus que c'est très nouveau, puis au Québec, c'est pas beaucoup développé encore.
Il y a encore énormément de préjugés aussi, hein, pas, là, c'est une perte de temps, etc., les jeux, là.
Ouais, ben, c'est l'entraînement demande beaucoup de temps à passer devant sa console de jeu ou devant son ordinateur, donc oui, à ce niveau-là, c'est difficile.
On a du chemin à faire pour trouver le bon côté des jeux.
Oui, mais je voudrais tenir à dire que l'entraînement physique est aussi important pour les cyberathlètes. La forme physique a un aspect important dans la compétition, donc...
Pour le côté endurance, entre autres.
Exactement.
OK, ah, c'est bon.
Comme, quel sport, par exemple, que les cyberathlètes doivent pratiquer là, pour être bons, mettons?
Ben, beaucoup de top cyberathlètes dans le monde courent pour garder une bonne condition physique.
Donc, le cardio.
Oui, exactement. Un entraînement normal comme pour tous les sports.
Ah, c'est bon, ça.
Oui, For Glory, il nous parlait justement qu'il joue au tennis aussi.
Ah, okay, ouais. Si lui, il aime le tennis. Le tennis est populaire parce que c'est le hand-eye coordination qu'il appelle en anglais. C'est pour l'acuité visuelle, je crois, le terme exact.
Oui, c'est ça, coordonner l'œil et la main. Puis j'imagine au niveau de la concentration aussi, parce que là, rester concentré pendant des heures de temps, il doit y avoir des exercices aussi mentaux pour...
Oui, ben, il y a beaucoup... Il y a du momentum, si on peut appeler ça comme ça. Exactement, faut rester concentré, puis pas se décourager.
C'est ça, oui.
Ben, tu nous as parlé brièvement de la réaction peut-être des commerçants, mais c'est quoi la réaction des jeunes?
Les jeunes, ben, je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent plutôt au sport ou au e-sport comme un loisir. Donc, il y a très peu de jeunes qui veulent vraiment faire carrière là-dedans. C'est vraiment, il y a le côté cyberathlète amateur et le cyberathlète professionnel. Donc, faut vraiment faire la différence entre les deux.
Puis pensez-vous qu'un jour ça va se rendre aux Jeux Olympiques ou ils sont trop conservateurs pour
ben,
ça?
Présentement, il y a les World Cyber Games qui essayent de faire les Olympiades, un modèle d'Olympiade. Donc, il y a des qualifications nationales, tu vas représenter ton pays à une compétition internationale. Ah. Donc, ils ont leur propre Olympique, si on veut. Mais oui, il y a des pressions pour rendre certains Jeux aux Jeux Olympiques, à savoir est-ce que l'ouverture d'esprit va être là.
Ça va prendre des années, probablement.
Probablement, oui.
C'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant. Puis tout à l'heure, tu parlais justement que tu organisais une ligue de Dota. Peux-tu donner des détails supplémentaires?
Oui, mais pour s'inscrire à la ligue de Dota, c'est une formule 5 contre 5. Donc, chaque équipe doit avoir un team leader. Puis les inscriptions se font par le forum de mon site internet, qui est le www.topca.ca.
C'est court, hein?
Donc, on espère lancer la ligue à mi-janvier, mais la ligue va être lancée aussitôt qu'on va avoir 8 équipes qui se seront inscrites. Okay. Puis ça va être une saison de 8 semaines. Les frais sont de 50$, mais si on parle en termes d'heures qu'on va passer au Dream City, ça a une valeur de 100$ et plus. Puis, on va faire des playoffs qui vont possiblement avoir lieu dans un LAN que le Sport et Loisirs électroniques va organiser à Québec. Mais ça, c'est encore en développement, donc je peux pas trop en parler.
Okay. Puis, est-ce que les participants peuvent gagner des prix ou c'est vraiment juste pour trouver un champion?
Oui, ben le prix, ça va être Green City va offrir une banque de 25 heures à chaque joueur de l'équipe. Donc, c'est une valeur de 95$. Puis, entre-temps, on va peut-être trouver d'autres sponsors qui vont vouloir commanditer l'événement. Mais Dream City a déjà affirmé qu'il y aurait des prix pour les gagnants de la Ligue.
Okay. Génial. Donc, pour les gens qui veulent en savoir plus, topca.ca, topca.ca, tout simplement. Exactement. Mathieu Morin, je te remercie beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
J'espère que tu vas revenir si un jour tu trouves un jeune talent que tu voudrais nous faire présenter.
Oui, il n'y a aucun problème.
Ça serait cool. Donc, on se laisse là-dessus. On va aller écouter maintenant une petite pièce. Vous êtes toujours à puissance maximale. On va l'entendre The Meteors, Bad Moon Rising.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute puissance maximale.
Une mauvaise lune qui s'élève, c'est peut-être Daniela Tatep ou qui sais-je?
On comprend rien à leur nom de toute façon.
Salut Christian!
Salut François!
Tu viens nous parler d'un jeu de rôle!
Oui, parce que le jeu de rôle, c'est sérieux!
Oui, ça l'est!
Effectivement, donc c'est un type de jeu là, qui est vraiment plus, je dirais, il demande plus d'investissement que d'autres types de jeux. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est donner des trucs un peu pour les maîtres de jeu. Il y a plusieurs types, on les appelle les MJ, les Dungeon Master, etc. Donc, ils ont plein de noms. Mais donc, le but, c'est parce que c'est eux autres qui ont toute la pression dans ce type de jeu-là. Mmh. Et ils ont énormément de préparation à faire, de travail à faire, alors que les joueurs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se présenter, imaginer une petite histoire pour leur personnage, c'est fini. Alors que le maître de jeu, lui, il faut qu'il développe la géographie, le monde, tous les autres personnages.
Donc, le scénario, les 8 façons de tuer les joueurs.
Effectivement. Donc, c'est un peu, et c'est souvent ingrat. Et moi, bon, j'organise des jeux avec des jeunes à l'école où je travaille, puis souvent, j'essaie des jeunes devenir maîtres de jeu. Évidemment, ils sont inexpérimentés, donc c'est pas toujours génial. Et là, j'entendais les joueurs se plaindre. Puis là, je leur disais, hey, un instant, je vous mets au défi d'être maître de jeu pendant une session, puis une demi-campagne ou peu importe, puis vous m'en reparlerez.
C'est ça?
Oui, effectivement. Et je peux vous dire que là, ils ont compris un peu c'est quoi que ça impliquait, puis ils ont été beaucoup moins sévères après. Donc c'est systématique. Ceux qui l'ont jamais essayé comprennent pas tant qu'ils l'ont pas essayé.
Il y a des cours qui se donnent dans certaines écoles pour former les maîtres du jeu, hein, les maîtres de joueurs. Hein.
Ah oui, tu m'en apprends, mais ça me surprend pas. On pourrait faire un cours là, de 90 crédits. Alors, peut-être pas, mais en tout cas.
Mais je pense que c'est des espèces de cours, mais c'est pour le fun. Là. Bon, on s'entend là. Mais on va essayer d'en faire venir peut-être. De toi-même, tu es une sorte de formateur, de rôliste toi-même.
Ben oui. Donc, puis s'il y a des Olympiques du jeu vidéo, je vois pas pourquoi il n'y aura pas l'université du jeu de rôle. Mais bref, donc aussi, j'ai préparé deux autres chroniques prochaines. Là, je peux juste vous dire un peu ça va être quoi. Ça va être une chronique sur la typologie des joueurs, parce que ça, c'est lié un peu à mon premier conseil. C'est important de bien identifier les attentes de vos joueurs, les types de joueurs avec lesquels vous allez travailler, parce que il faut même faire un questionnaire avec vos joueurs pour savoir c'est quoi qu'ils s'attendent, qu'est-ce qu'ils veulent le plus, parce qu'il y en a qui vont adorer par exemple des enquêtes et il y en a d'autres qui c'est le combat seulement, reste c'est juste une perte de temps là.
La politique ou même l'amour.
Oui, absolument, il y a des groupes mixtes qui vont reproduire justement leur, et même ça peut être thérapeutique, hein. Il y a des thérapies de couple qui se font comme ça.
Ah ouais?
Oui, entre autres GURPS, il y avait un couple qui avait fait des règles alternatives pour gérer les relations amoureuses et même sexuelles.
Non.
Oui, à travers, il y avait c'était hallucinant, c'était très développé. Bon, pourquoi pas? Il y a d'autres qui jouaient en couple d'amis, tout ça, et ça leur permettait de mieux se comprendre. Donc, ça peut, bon. Mais bref, là, donc, connaissez vos joueurs, demandez-leur qu'est-ce qu'ils préfèrent, et après ça, ça va vous permettre de répondre à ces besoins-là, d'adapter vos scénarios en conséquence. Parce que si vous communiquez pas avant de commencer, c'est quoi vous comptez faire, là, il va y avoir un problème. Là. Eux vont trouver le temps long, et etc. Donc, il faut se rejoindre, c'est essentiel. Et une autre chose, c'est qu'il faut composer avec ce que les joueurs veulent faire. S'il y en a un qui dit, par exemple, il y avait un exemple que je trouvais bien. En passant, je m'inspire beaucoup des commentaires de l'auteur américain Robin D. Law, qui est vraiment un spécialiste là, pour justement le support au maître de jeu. Et lui, il disait, par exemple, s'il y a un de vos joueurs qui vient de voir les Pirates des Caraïbes, bon, puis là, il se présente à votre nouvelle partie, dit, moi, là, je veux jouer un pirate, c'est clair. Mais là, le problème, c'est que dans votre univers, vous vouliez seulement jouer avec, il n'y a aucune mer.
Il n'y a pas d'eau.
Ouais, il n'y a pas d'eau, bon. Fait que là, on a un problème. Vous pouvez dire, oh non, t'as pas le droit, écoute, il n'y a pas de mer. Mais là, bon, vous venez de lui couper l'herbe sous le pied. Non. Mais vous pouvez adapter. Dire, bon, ok, mais vu qu'on n'a pas de bateau, ça va être la même affaire, mais sur cheval, par exemple. T'sais, vous êtes une gang de bandits à cheval, puis vous êtes des pirates, mais bon. Là, lui, c'est un compromis. Bref, toujours chercher le compromis. Ça, c'est essentiel. Et non pas, n'abusez pas de votre pouvoir.
L'accommodement raisonnable.
L'accommodement raisonnable, oui, parce que souvent les maîtres de jeu, c'est un power trip, hein, souvent on a tendance à abuser notre pouvoir. Non, bon, parce que c'est moi le boss, le
fait. Ouais, c'est ça.
Donc, non, c'est un travail d'équipe, soyez coopératifs. Donc, ça, c'était le premier. Autre chose, créer des archi-vilains, là, en anglais, on va dire arc-villain, en tout cas. Vos vilains, il faut qu'ils soient mémorables et surtout dynamiques. Parce que trop souvent, dans les jeux de rôle, le vilain, il a déjà commis son méfait, puis il attend passivement là dans sa tour d'ivoire, OK, que les justiciers, là, les personnages joueurs viennent le trouver, le punir.
C'est quoi un bon arche-vilain, là, justement?
Ben, pensez, par exemple, dans les films de James Bond, souvent, là, il y a une enquête qui est liée à ça. C'est très dynamique parce que, dans le fond, on apprend, en même temps que James Bond, les plans du vilain. Puis là, c'est toujours de plus en plus gros. Oh non, il il veut vraiment détruire le monde. Il veut. Bon, puis là, on a.
C'est dans ses manies aussi, c'est.
Oui, effectivement. Donc, et oui, ils ont beaucoup de couleurs. Donc, c'est vrai, ils ont une façon de parler. L'autre qui caresse son chat blanc. Donc, et on voit jamais son visage. Ouais. Bon, etc. Ils vont avoir plein de Goldfinger. Bon, c'est, vous voyez, je pense que c'est un bon modèle. Il faut absolument travailler encore peut-être plus votre archivilain que les personnages vont travailler leur propre personnage au niveau de la description. Ça, c'est essentiel. Si vous faites un espèce de vilain classique sans saveur, ben là, les joueurs vont s'emmerder un peu. Il faut qu'ils n'aient peur du vilain.
Ça, et est-ce que les archivilains qu'on construit, est-ce qu'ils peuvent mourir? C'est comme dans Batman, ils reviennent tout le temps. Hein,
ouais, ben c'est sûr que moi, je pense qu'il faut absolument pas qu'ils meurent à la première rencontre parce que là, ça fait comme... Ouais. il est ordinaire. Non, il faut le faire durer. Donc, plusieurs rencontres, ça rebondit. Et à la toute fin, idéalement, je sais pas, moi, dans 2-3 ans, si vous êtes chanceux, ben là, il finit par mourir. Mais il faut que ça soit vraiment une réussite, quelque chose de...
Ouais, que ça soit épique.
Épique, tout à fait. Donc, travaillez vos vilains, ça, c'est important. Et même aussi les lieutenants de ces vilains-là, il faut qu'ils aient la couleur. Encore là, pensez à James Bond, requin, hein? Bon, ben, c'était quand même spécial. Bon.
Le requin qui avait des dents en plomb, je sais pas trop quoi, puis qui mangeait des grosses...
Oui, il mangeait n'importe quoi, Mais c'était épeurant, c'était bien, tu sais, c'est un géant, puis bon, il y avait de la personnalité, quoi qu'il parlait pas beaucoup, mais il y avait sa personnalité. OK. Ensuite, autre conseil en vrac, éviter... Ah oui, souvent, on met une situation dans les joueurs. Par exemple, bon là, vous devez infiltrer tel château, etc., ou tel manoir. Et là, il y a la fameuse séance de planification. Hein? Là, vos joueurs vont placoter pendant des heures, ou en tout cas pendant des minutes au moins.
Pour faire des plans,
ouais,
tout ça.
Les fameux plans. Comment qu'on rentre ça? Et là, c'est drôle de les voir aller, et parce que là, ils prennent plein de choses pour acquis. T'sais. Et souvent, ils ont eu des expériences avec des maîtres de jeu très sévères, où là, dès que tu essaies de t'approcher d'une porte, il y a une trappe, boum, tout le monde explose et tout. Mais là, on peut pas rentrer par là. Puis là, bref, souvent, alors que c'est pas si compliqué que ça à la base, mais eux autres, ils se compliquent les choses. Un autre phénomène aussi, il y a un joueur, par exemple, qui va être très convaincant, qui va prendre tout le plancher, qui va démolir les autres plans, à part le sien. Donc là, mais c'est important d'intervenir. Donc, mon conseil, c'est souvent, on évite d'intervenir, on se dit, ben là, c'est entre les joueurs, je les laisse aller. Mais surveillez ce qui se passe, et puis intervenez pour les ramener peut-être à un truc, c'est peut-être de répéter ce qui a été dit, peut-être les plans qui sont pas si bêtes que ça. Là,
moi, je dirais, pour ma propre expérience personnelle, là, quand les joueurs commencent à faire des plans, puis ça commence intervenir puis faire quelque chose qui fait qu'ils vont y aller puis ouais, faut pas que ça niaise parce que sinon les joueurs peuvent passer des heures et des heures à parler du plan puis finalement c'est sans intérêt, c'est sans importance.
C'est ça, pour finalement, oui, c'est décevant. Puis aussi il y a d'autres joueurs qui vont à un moment donné perdre l'intérêt là. Donc il faut toujours effectivement une bonne façon, oui, c'est d'amener l'action aux joueurs. S'ils prennent trop leur temps, ils deviennent complaisants, ben vous êtes attaqué, t'es bing bang, il y a une gang de gardes qui vous ont trouvé pendant que vous placotiez, bing, là ça les pousse à l'action. Donc très important de garder ça dynamique. Et donc rappelez-leur qu'on n'est pas dans la vraie vie aussi et qu'ils sont des héros partout. Donc, c'est-à-dire que arrêtez là, de penser là, comme si on était dans la vraie vie, voir des caméras de sécurité. Ben, tout bad, là. Vous allez les faire pas marcher. OK. Il reste combien de temps, là?
Non, mais c'est pas fini, là-dessus.
Bon. Il y a aussi le problème des joueurs qui font tout pour casser l'ambiance. Hein. Ça, je pense qu'on en a tous rencontré. Bon, moi je dirais...
Ils vont sortir du rôle, ils vont sortir du...
Ouais, ils vont faire des farces plates, puis ils prennent pas ça au sérieux, puis etc. Bon.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les élimine, on les passe dans la tordeuse, puis on en fait du bacon?
Ouais, ben, moi je dirais, ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne-là, parce que le problème souvent, c'est que c'est un ami, hein, à quelque part, généralement. Alors là, vous êtes coincé, il faut équilibrer, est-ce que je vise à l'expérience ultime de jeu de rôle, donc je dois le flusher, mais là je fais mal à son ego, il me parlera plus, bon, etc. Ou ben non, bon, c'est mon ami, merde, il faut que je compose avec. Alors là, c'est à vous, évidemment, à voir ça. Mais moi, je dirais, d'abord, faites preuve de tolérance, parce que peut-être que le joueur est fatigué ou préoccupé. Ça influence beaucoup, hein. Si vous êtes pas si vous êtes dans vos SPM, je parle du syndrome puissance maximale, et non pas l'autre SPM, ben là, bon, vous voyez un peu, là, ça va dépendre de votre état mental. Bon, donnez-leur une chance, mais après ça, allez leur parler après la partie. Bon, ouais. Pourquoi t'as un comportement comme ça? Tu as essayé de négocier avec lui, lui faire remarquer qu'il y a un comportement qui dérange. souvent ils s'en rendent même pas compte, ou ils pensent que c'est la façon de jouer. Donc essayez de négocier ça, mais évitez de pénaliser tout le groupe pour l'accommoder, le joueur qui fait le pas. Oh, on annule cette session parce que là, monsieur ne se sent pas bien. Là, ça marche pas. Vous venez de pénaliser 4-5 personnes pour une. Mm-hmm. C'est plutôt pointez-lui la porte, je pense. C'est bon. Bref, ça, c'est un autre problème. Mais c'est le problème le plus épineux, le plus délicat que vous aurez à avoir. Alors voilà, j'aurai d'autres conseils, mais peut-être pour une prochaine chronique.
Une prochaine chronique. Christian Lacroix, je te remercie beaucoup pour cette chronique de jeu de rôle. C'est sérieux et c'est très sérieux.
Oui, tout à fait. Mais c'est le fun en même temps.
C'est très le fun. Et on va écouter une autre petite pièce qui va fitter dans le thème toulouesque, tentaculaire. Ça va être les Georges Leningrad, l'espèce de groupe de Montréal complètement déjanté. Et ça va être la chanson Sponsorships.
Andrea, sunt de la Fox Mind și îmi place puissance maximal.
Vous êtes de retour à puissance maximale. C'était Sponsorships des Georges Leningrad. Et nous sommes maintenant dans la section Nouvelles insolites. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu?
Je ne sais pas.
Il s'est passé toutes sortes de choses assez pétées. Il y a Microsoft qui s'est joint à l'armée américaine pour présenter un tournoi de Halo 3 Winner Take All sur la Xbox Live.
Ah oui?
Ouais. Donc le tournoi est prévu pour mars 2008. Puis il y a des exercices de combat. passes qui sont prévues avant.
OK.
Ça, j'ai pas su si c'était des vrais exercices de combat de l'armée ou quoi, là.
Mm-hmm. Peut-être qu'ils préparent des armes secrètes, les fameuses bioweapons.
Peut-être.
Dans le jeu, c'est peut-être déjà inventé par l'armée américaine, puis on le sait pas.
Exactement. C'est
peur, hein?
Et Puissance Maximale va mettre un homme là-dessus pour trouver toutes les réponses à vos questions. Sinon, c'est ça, Microsoft s'allie, ils vont faire un tournoi de Halo 3. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Je pense que ça va faire le tour. Mais c'est intéressant de noter que c'est une étape de plus dans les plans de recrutement de l'armée états-unienne dans le monde des jeux vidéo.
D'ailleurs, il y avait sorti un jeu US Army hein, qui était gratuit, qui a été contesté parce que ça servait d'outil de recrutement à l'armée.
Mais exactement, bon. C'est encore disponible. C'est un jeu gratuit qui fait directement la promotion de l'armée états-unienne. Il s'en cache pas.
Ah oui.
Sinon, il y a GTA V qui va sortir bientôt. Est-ce que tu es un fan toi-même de GTA?
J'ai joué un peu, oui. J'avoue que j'aime bien le concept, là, la liberté totale. C'est intéressant. Mais par contre, là, il y a beaucoup de controverses autour de ça, là, c'est sûr.
Puis ouais, c'est un jeu qui est très violent.
Oui, encore là, il y a le potentiel. Ça dépend comment on le joue. Donc, mais c'est très intriguant de regarder les joueurs. Parce que moi, on apprend beaucoup sur les frustrations des gens quand on les regarde jouer. Vraiment, c'est ça.
Ah ouais?
Ah ouais, ouais. Vous voyez, les gens vont cibler certains types de personnes. En tout cas,
faut rappeler aux gens que c'est un jeu de voiture dans une ville. On interprète le rôle souvent d'un gangsters. Et on peut vendre la drogue, on peut faire du pimping, toute l'équipe. Donc, c'est vraiment vivre le monde du crime.
Oui, tout à fait.
Donc le GTA V va a sorti des le Rockstar, la compagnie qui fait Grand Theft Auto, a sorti trois bandes annonces du jeu et le jeu va être disponible l'année prochaine sur la Xbox 360 et la PlayStation 3. Et on va jouer Nico Bellic, un ex-criminel de l'Europe de l'Est qui est débarqué dans la ville de Liberty City.
Ah.
Liberty, et non New York, mais même s'il y a une espèce de grosse statue de la liberté, mais ça faut pas le dire. Mm-hmm. C'est Liberty City et non New York. Donc, c'est à voir. Sinon, il y a Guitar Hero qui va sortir sur cellulaire. Mmh. Oui, monsieur. C'est, évidemment, pour ceux qui trippent bien gros sur les jeux de guitare, de musique, il va avoir maintenant la possibilité de jouer sur son cellulaire. On va pouvoir jouer des tunes comme Cherub Rock, Hit Me With Your Best Shot, Paranoid, Woman, en tout cas, des tunes que je connais pas, finalement. Et, La date de sortie n'est pas encore sortie, là, n'est pas encore
annoncée,
mais ça devrait pas tarder.
Ok, mais tu pourras pas brancher ta guitare sur ton cellulaire, tu pitonnes sur ton cellulaire.
Tu vas pitonner sur ton cellulaire.
Ça va être pas mal moins intéressant, je pense.
Ouais, mais quand même, c'est original. Je sais pas si la musique va sortir, va être midi, ou si ça va être de la bonne musique en MP3, je sais pas. Okay. Probablement du MP3.
Ouais.
Technologie s'est rendue tellement loin, hein?
On n'arrête pas.
On n'arrête pas le progrès. Sinon, eh bien, c'est bientôt le temps de se quitter. On va se laisser sur l'agenda ludique de la semaine, avant que Cthulhu nous mange. Donc, comme tout est lundi, n'est-ce pas, on se dirige vers l'Astradamus pour les parties de jeux de plateau.
Oui, on va y être.
Sur la rue Couillard. Et sinon, demain, c'est les parties de Go au Café Aga, le jeu de plateau de Go. Et c'est tout cette semaine, mais il se passe pas grand-chose finalement. Peut-être qu'on aura le temps pour une dernière pièce musicale avant de se laisser. On va écouter... c'est une bonne question, ça. De Dawning, peut-être?
Oui.
OK, allons-y.
Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
Et vous étiez en compagnie de Cthulhu ce soir pour cette émission de Puissance Maximale. J'espère que ça, vous avez apprécié tout ça. On remercie nos invités, n'est-ce pas, Mathieu Morin, Pascal Babin, l'humoriste, et bien sûr Christian Lacroix qui est là. Salut Christian! Donc, c'était François Gécouillard au micro. Restez à l'écoute, ça va être l'émission homologue. Sinon, pour avoir plus d'informations, allez sur puissancemaximale.com. Ciao!
Get a little harmonica. I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D, never kissed a lady before.
Nope.
Mm-hmm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah.
It's D&D, warriors who terrify. It's D&D, virgins till the day we
one, two, three, four,
die.